Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. C'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel. Abonnez-vous à notre podcast, nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme, nos historiques U-Golf Blue Green et Callaway. Et nous sommes très heureux d'accueillir Garmin dans cette aventure. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche. Au sommaire de ce quatrième numéro de la saison, un invité exceptionnel présent avec nous en studio, un caddie professionnel. Et on a beaucoup de questions à lui poser, André Nola. Bonjour Andrea.
Bonjour, bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous, on est très heureux de t'avoir dans le Practice RMC aujourd'hui. Caddie professionnel, je le disais, tu es aussi fils d'un grand footballeur que l'on connaît très bien sur RMC, David Ginola. On va parler de ton métier, de ton avenir, de ton ambition, tes objectifs. Bref, tu vas tout nous dire sur ton métier. La Dream Team aujourd'hui, Fabien Donoyan, Hugo Blue Green, notre prof de golf, Ramucho Artola, nos éditorialistes Simon Dutin, Marc Coulon et Romain Fontaine de chez Garmin. Bonjour à tous les cinq.
Salut les gars.
Salut JT.
Salut les cakes.
Ça va Martin, toujours la forme toi?
Bah écoute, on fait aller, hein, on fait ce qu'on peut, hein, qu'est-ce que tu veux?
Bah ouais, j'ai jamais compris les cakes. Un jour tu nous diras.
Les cakes, les tranches de cake, non? C'est.
Ouais,
vous êtes mes cakes, voilà. Vous avez.
C'est gratuit.
Mes cakes, c'est gratuit, ça me fait plaisir.
C'est cacou. C'est pas cacou.
C'est ce que vous voulez. Voilà. Je changerai un jour si j'ai envie, promis.
Okay. Bon les amis, il y a du bon golf qui nous attend et puis là on a l'honneur et l'occasion de parler du golf mais à travers un autre métier, celui de caddie avec Andrea Ginola. C'est parti.
Le Practice RMC.
Alors évidemment, Andrea, je le disais, on a beaucoup de questions à te poser. On a envie de connaître aussi tes expériences, ton expérience sur le PGA Tour et puis de savoir vraiment de quoi sera fait ton avenir. Mais pour commencer, évidemment, cette information parue il y a quelques jours qui nous a beaucoup surpris. Donc on avait envie de t'en parler. Tu étais le caddie d'Adrien Sadier depuis 2 ans, joueur français qui venait tout juste de monter sur le PGA Tour. Et donc on a appris qu'Adrien allait changer de caddie. Pourquoi cette séparation?
L'aventure a été incroyable, certes courte, mais assez incroyable. J'ai pas vraiment de raison particulière. C'est une décision qui vient de lui. C'est quelque chose qui est à savoir dans les relations caddie golfeur, c'est-à-dire que il n'y a pas de contrat, donc chaque caddie est libre de partir lorsqu'il veut, ainsi que le joueur. T'es en droit de faire la même chose. Donc la décision est venue de lui. Je pense qu'il sait ce qui est mieux pour sa saison et sa carrière. Et je pense que un changement, j'imagine qu'un changement lui fera du bien. Et c'est certainement pourquoi il a pris cette décision. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite.
Je vais te poser une question un petit peu aussi simple que...
Que direct.
Bah, ouais, direct. Et t'es déçu, t'avais envie de continuer, tu comprends sa décision, t'aurais eu envie de lui proposer, je sais pas, quelque chose pour que ça se poursuive, ou cette décision elle te convient et t'en prends acte, t'avances de ton côté.
J'étais pas au courant et je ne m'y attendais pas non plus, donc c'est vrai que lorsque j'ai appris ça, c'était assez compliqué sur l'instant de savoir vraiment comment réagir. En plus, je volais de Los Angeles, donc c'est sympa de se taper un vol de 15 heures après s'être fait virer, donc ça c'était plutôt cool. T'as le temps de bien gamberger sur ce qui s'est passé. Donc j'ai pas eu vraiment l'occasion non plus de pouvoir proposer des choses pour faire en sorte que la décision puisse changer, parce que les raisons qu'il m'a données ne permettait pas justement de rectifier le tir. Donc oui, forcément déçu, parce que tu travailles quand tu es sur le tour européen en tant que caddie, c'est un peu la seule voie entre guillemets pour accéder au PGA Tour, c'est de pouvoir se qualifier avec ton joueur. Donc ça demande beaucoup de travail et puis surtout de réaliser une saison quasi exceptionnelle, presque parfaite.
Et avec son caddie.
Exactement. Donc c'est vrai que c'est la seule voie d'accès à ça. Donc c'est certes très dur le fait que ça s'arrête au bout de 4 semaines. Forcément, j'ai mis une petite semaine à digérer ça en rentrant. Mais la vie continue et il faut retrouver un sac et repartir. Exactement.
Après, ce qui doit être compliqué, voilà, c'est de... Parce que saison, tu l'as dit, 25, incroyable. Mm-hmm. Vous partez sur le PGA Tour, ça se passe plutôt correctement. C'est sûr qu'on attend, les ambitions doivent être un petit peu plus hautes, mais c'est un début, et on va en parler, ça doit être diamétralement différent sur plusieurs aspects.
Bien sûr.
Mais c'était assez cool, avec un niveau de jeu qui était quand même plutôt correct. Donc c'est ultra brutal. Et c'est vrai, quand on a vu l'info, on dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Parce que tu te fais sortir après 6-8 mois où effectivement tu as eu le temps d'engranger 10-12 tournois, et là il y a divorce parce qu'il n'y a plus les mêmes relations, très bien, mais là c'est presque inattendu. Et comme tu le disais, c'est archi brutal. Ce rôle de caddie que tu as pris en 2020, tu as démarré en 2024, parce que tu avais été sur le sac aussi d'Alex, non ?
Ouais,
Alex, hein, c'est ça.
Il
faut rappeler que tu es enseignant de golf, mm-hmm. que tu as un vrai bagage et tu es un super joueur de golf. Cette relation-là que tu as avec ton joueur, et pour quel pourcentage tu mets, toi, en étant un jeune caddie, dans la réussite qu'a le joueur pour faire une saison comme il l'a fait?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Moi, je mets énormément d'importance sur l'apport mental du caddie au joueur, parce que le fait de savoir faire des additions, des soustractions, trouver des yardages, connaître les positions de drapeau, ça c'est un peu donné à tout le monde. Mais c'est vrai que la capacité à réussir à garder son joueur mentalement dans la partie lorsqu'on est confronté à du stress, ou lorsque la partie se passe moins bien, comme ça peut arriver assez souvent, je trouve que ça, c'est une qualité vachement importante à avoir. Et moi, je m'axe beaucoup là-dessus, et je suis perpétuellement en train de chercher des façons et de trouver des mots qui peuvent l'atteindre différemment, et toujours réussir à m'adapter et savoir ce que je vais dire suivant chaque situation sur le parcours.
Et il y a des modèles de caddie, quand tu es caddie, quand tu es joueur, on a toujours un peu des modèles. Tiens, on aimerait la striker comme ça, on aimerait jouer comme ça. Est-ce que toi, ton expérience que tu as vécue sur le PGA Tour, tu dis tiens, je vais peut-être aller discuter avec deux, trois top caddies qui sont sur le sac des plus grands joueurs comme Scotty, comme... les Américains, parce que peut-être qu'avec Rory, tu as déjà discuté. Est-ce que c'est un truc que tu as fait, et d'ailleurs ça t'a inspiré, ou absolument pas ?
C'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai fait énormément lorsque je suis arrivé sur le Tour européen avec Alex à l'époque, parce que c'était un milieu que je connaissais pas du tout. Et je me suis rapproché énormément de Sébastien Clément, qui est caddie de Hugo Cousseau aujourd'hui, qui m'a appris énormément de choses, parce qu'il faut aussi... Or, le fait de caddier, apprendre à se débrouiller, la vie sur le tour et les déplacements, les logements, etc. Donc ça, c'est une vraie organisation qu'il faut apprendre aussi. À mes débuts, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. Plus récemment, Olivier, qui est sur le sac de Martin Couvra aussi, de par son expérience. Donc c'est vrai que j'ai appris énormément des caddies sur le tour européen. Pas forcément eu énormément l'occasion de me rapprocher de beaucoup de monde là-bas, sachant que la façon de faire, tout est assez différent, c'est assez individualiste, donc les caddies entre eux se mélangent beaucoup moins aux US qu'en Europe, donc c'est une mentalité vraiment à part. Donc c'est vrai que lorsque tu es sur le parcours, en tournoi, ça discute énormément avec les caddies, etc., mais c'est vrai que dès que la partie se termine, c'est chacun va faire son entraînement avec son joueur et chacun part de son côté, ce qu'on n'a pas vraiment sur le Tour européen, où c'est beaucoup plus convivial et tout le monde...
Tu vas boire des bières ou tu vas manger un bout
Beaucoup de bières, mais...
plus de bout. André, j'ai une question. Tu parlais de l'approche mentale avec le joueur. Comment tu crées la relation justement avec lui, avec Adrien? Est-ce que tu le connaissais déjà d'avant? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Comment tu fais justement pour avoir cette approche?
Je l'ai fréquenté l'année où j'ai caddié Alex et Adrien. C'est vrai que si c'est une personne, si t'es pas proche de lui, c'est pas quelqu'un qui s'ouvre énormément. C'est quelqu'un qui est vachement distant, assez froid. Donc à mes débuts, c'est sûr que je me suis dit que ça serait pas facile. Mais c'est vrai qu'en apprenant à le connaître, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'ouvre uniquement aux personnes qu'il considère proches. Donc j'ai pu justement me rapprocher de lui et apprendre. Et c'est vrai que moi, j'essaye de trouver des choses des sujets de discussion et des approches différentes du golf. Ce qui pour moi est important, Adrien étant un grand amoureux de football, supporter du FC Annecy et l'Olympique Lyonnais. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis engouffré très rapidement. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire pour détourner un petit peu l'esprit du golf lorsqu'on est en tournoi, j'essaye de tout transférer. Donc ce qui se passe pendant le tournoi, pendant un tour, pendant un round, je le transfère en foot. Donc par exemple, on arrive au 10, on vient de faire un 9 trous assez compliqué. On a des coups de retard ou on a un 9 trous de retour à faire assez important. Bah, je vais transférer ça en termes football. Et par exemple, je vais lui dire, bon, on a fait une première mi-temps assez compliquée. On a mis du temps à rentrer dans le match. On a concédé deux occasions, deux buts. Voilà, la mi-temps, il faut qu'on reprenne. On met le pied sur le ballon dès l'entame. Et on repart. Et j'ai essayé ça la première année avec lui. Et j'ai vu que ça a cliqué tout de suite. Et que ça lui a plu. Parce que lorsque je lui dis ça, il ne me dit rien. Il ne me parle pas. Et là, forcément, tu dis, peut-être il n'a pas aimé. Peut-être il n'a pas aimé. Et on marche du 9 au 10. Et arrivé au 10, je vois qu'il prend une balle dans son sac. Et il dit, il est temps de faire un changement. Entrée de la casette. Et là, je vois tout de suite qu'il a adhéré. On a fait un très bon retour, tant mieux. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en place. Donc, c'est tout le temps des choses que tu vas essayer de faire, essayer de dire. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important.
Et est-ce que tu sentais, est-ce que tu sentais justement que les recettes que tu avais mises en place avec Adrien et qui ont fonctionné, puisque vous avez réalisé une saison 2025, je ne sais même plus quelle année on est.
25, ouais.
25, c'est ça. De très très haut niveau, à plein de niveaux. Il y a victoire, il y a le PGA Tour. L'idée, c'est pas de tracher qui que ce soit. Une relation joueur-caddie, ça s'arrête, c'est comme ça. Les raisons qui sont les siennes, c'est les siennes. Et si un jour il vient nous en parler, ce sera génial. Mais t'avais pas senti que justement cette alchimie, elle s'était brisée à un moment ou qu'elle s'effritait ou qu'il y avait quelque chose qui marchait plus dans le discours que t'essayais de lui apporter. Enfin, c'est très étonnant en fait. Je suis encore un peu sous le coup de waouh. Un duo qui fonctionnait si bien et comme tu le dis, avec des recettes qui vous étaient propres, plaf, on le fait sauter.
On a eu une grosse discussion après l'Amex, donc le deuxième tournoi qu'on a joué aux États-Unis. On a eu une grosse discussion sur pas mal de choses, certaines choses qu'on pouvait changer, mettre en place, des choses que lui voulait que je fasse différemment, des choses que moi je voulais faire différemment aussi et des choses que je voulais que lui il améliore. On a eu une bonne conversation et je pense qu'il en faut. Il en faut et c'est important de savoir débriefer des parties, des rounds, etc. Et de toute façon, la plupart des personnes à qui j'en ai discuté, golfeurs, caddies ou autres, étaient tous autant surpris de la décision. On a eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec Mathieu Pavon, qui lui aussi est sur le PGA Tour. Et même lui m'a dit de vos rapports sur le parcours, les parties d'entraînement, j'ai pas ressenti quoi que ce soit. Tout était comme d'habitude. Après, c'est la seule fois en 2 ans où on traverse 4 semaines difficiles niveau résultat, où on a eu l'habitude de tellement exceller sur tous les tournois, à jouer d'une semaine à l'autre quasiment le top 10, le top 5, la gagne, que c'est la première phase un peu qu'on vit un peu compliquée, chose qu'on n'a jamais vraiment vécue en 2 ans. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Est-ce que à ce moment-là il s'est dit que ça se passait moins bien au niveau des résultats et que pour générer un changement, le caddie serait un élément déclencheur. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est sûr que j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour essayer de redresser parce que le niveau entre le Tour européen et le PGA Tour est stratosphérique. Quoi. Que ce soit le niveau des joueurs ou la difficulté des parcours, c'est impressionnant la différence, donc forcément qu'il va y avoir un temps d'adaptation plus ou moins long suivant le joueur, mais tu perds énormément de repères et c'est beaucoup plus compliqué. Donc forcément, en arrivant là-bas, tu te prends une petite claque par rapport au niveau et qu'il faut du temps pour mettre les bases en place.
Ce qui m'intéresserait de savoir, par rapport au fait que vous avez une saison fantastique, on a l'impression que le dimanche après-midi, ça va être quelque chose de sous pression, puissance 12, quand vous jouez en dernière partie, vous jouez la gagne, tout ça. Et est-ce que tu as une stratégie particulière ou plus simplement, est-ce que qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas t'interdire de dire, qu'est-ce que tu vas faire ou t'interdire de faire un dernier jour, un dimanche, alors que voilà, Adrien a joué plusieurs fois la gagne, a même remporté un tournoi. Voilà. Est-ce que tu as un comportement particulier, un dernier tour et surtout en dernière partie, voire dans les dernières parties?
J'essaye d'être tranchant dans ce que je lui dis, que ce soit une simple distance ou une direction de vent. J'essaye vraiment de lui faire comprendre que même si moi j'ai un doute par rapport à mon intonation et la façon dont je lui dis les choses, le plus important pour moi, c'est qu'il ait l'impression que je suis toujours, que je maîtrise toujours ce que je fais et ce que je dis, pour que lui se mettre dans son coup dans les meilleures conditions possibles, ce qui est le plus important pour moi. Ça dépend des tournois. Ça dépend vraiment des tournois. Wentworth, j'ai abordé une stratégie, une approche mentale assez différente. On sortait de l'Irish Open où on était en dernière partie et où ça s'est très mal. Ça s'est mal passé dimanche et on a quand même réussi à bien finir, mais on n'a pas été en position de gagner. Et Wentworth, ça s'est passé presque pareil dimanche, où on a eu des débuts très compliqués. On a vite eu des coups de retard. Et pareil, j'ai abordé une approche où je lui demandais certes d'être patient, mais il s'est passé des faits de jeu où je lui dis, il faut que tu vois ces faits de jeu comme si le dénouement de cette semaine et de ce dimanche était écrit et que tout va commencer à aller dans ton sens. Et c'est vrai que Wentworth, j'ai eu de la chance dans mon discours parce que entre la balle dans la capuche ou la balle qui part pleine forêt, qui prend un spectateur dans la poitrine, qui revient sur le fairway, donc j'ai eu de la chance parce que tous ces faits de jeu sont allés dans mon discours, dans le sens de mon discours, et lui ont permis d'y croire jusqu'à la fin. Donc je pense qu'il faut s'adapter, mais la plupart du temps il faut essayer d'être tranchant dans ses décisions. Et que le joueur comprenne et sente que tu es en pleine maîtrise de ce qui se passe et que tu ressens en tout cas pas la pression, même si elle est présente, quoi.
Et on voit toute la psychologie qu'il faut avoir justement pour être caddie professionnel, et c'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir, Andrea, dans le Practice RMC. Pour parler de ton expérience sur le PGA Tour, tu parlais de 4 semaines difficiles. Évidemment, on n'était pas avec vous, mais on imagine que cette découverte que vous faites ensemble, il n'y a que 2 cuts ratés sur 4 tournois, donc c'est quand même une évolution. Est-ce que toi, maintenant, tu n'es plus sur le PGA Tour, déjà, qu'est-ce qui t'a impressionné de voir sur le PGA Tour? Et puis, est-ce que tu as aussi un peu parfois l'impression qu'on t'a retiré comme ça le gâteau juste avant de pouvoir vraiment croquer dedans? Parce que j'imagine que cette saison, tu l'attendais avec impatience.
Ouais, je l'attendais clairement avec impatience. Et c'est vrai que c'était l'aboutissement un peu de 2 ans de travail. Et c'est vrai que j'avais à cœur de pouvoir vivre pleinement cette saison. Donc c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, c'était assez dur à digérer. Mais c'est vrai que c'était 4 semaines incroyables. Tout est plus grand, c'est inexplicable. Déjà tu joues toutes les semaines avec énormément de public, ce qu'on n'a pas trop l'occasion de voir sur le Tour européen, où on joue beaucoup de tournois, où il y a peu de spectateurs, peu de public. Donc là, chaque semaine, il y a énormément de monde. Suivant comment tu joues, tu peux tomber dans des très grosses parties le week-end, ce qui amène encore plus de monde. Et c'est tout ça qui fait et qui crée un engouement assez exceptionnel. J'ai eu la chance de pouvoir cadayer jusqu'au Waste Management, Scottsdale, et de vivre la ferveur, l'ambiance qu'il y a sur ce trou numéro 16. Donc ça aussi, c'était une expérience incroyable, où j'étais limite obligé de me coller à lui au départ pour entendre ce qu'il me disait, quoi. Donc ça, c'est des choses que j'ai jamais vécues auparavant.
Et Andrea, est-ce que moi, c'est mon petit côté voyeur, est-ce qu'en 4 tournois, tu as des petites anecdotes révélatrices de ce changement d'univers? Je pose toujours la même question aux joueurs ou aux caddies français qu'on a la chance de recevoir. On imagine que tout est différent, que vous arrivez avec l'étiquette « Ah, c'est les mecs qui arrivent du DP ». Est-ce qu'il y a un petit peu de condescendance de la part des big dogs du PGA? Est-ce qu'à la cafette, on vous dit bonjour? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti disrespected ou au contraire, est-ce que tu as eu des bonnes surprises dans l'accueil que certains grands noms ont pu vous faire? Est-ce que tu as une petite anecdote qui serait révélatrice de ce changement d'univers?
Moi, j'ai la chance de... Quand je suis arrivé sur le Tour européen, je pense qu'il a fallu peut-être 2 semaines avant que tout le monde sache, enfin du moins tout l'univers et tous les caddies sachent qui était mon père. Donc c'est un petit monde et c'est vrai que ça se répand assez vite. J'ai été surpris la première semaine à Hawaï d'avoir des caddies qui viennent me voir sur le practice et qui me parlent de ça. Moi, je suis supporter de West Ham. C'est dur pour voir les matchs avec le décalage horaire, mais j'ai appris ton père. Hein. Et donc, du coup, bah, forcément, ça me facilite un peu la vie aussi.
Ouais. Ah oui.
Donc ça, c'est assez cool. Et j'ai jamais eu aucune gêne par rapport à ça. Donc souvent, étant supporter de Tottenham, dans les bons et les mauvais moments, même plus les mauvais en ce moment.
Bienvenue au club.
Donc forcément, souvent, on me pose la question. On me dit, mais comment tu t'as fait? Comment t'es venu à supporter ce club? Donc c'est vrai que, du coup, la raison est assez bonne.
Quand tu dis que ton père a été élu meilleur joueur de la saison voilà. Par les joueurs et les journalistes en jouant à Tottenham.
Donc du coup, à ce moment-là, les mecs me disent, oh, ok, ça va, la raison est valable, ouais. On a compris.
Okay. Ça passe.
Et du coup, ouais, j'ai été surpris de voir à quel point beaucoup de mecs suivaient énormément le football là-bas. Donc ça, c'était cool, ça ouvre beaucoup de portes. J'ai fait mes études aux États-Unis, donc je suis beaucoup la NFL, etc., les sports américains. Donc ça aussi, ça aide énormément. On était en semaine un peu de play-off, Super Bowl qui arrivait. Donc c'était de super sujets pour entamer les conversations avec les mecs sur le parcours. Et forcément, tout de suite, ils s'ouvrent un peu. Après, c'est cool parce que même les gros joueurs sont vachement ouverts. Je pense qu'ils sont courants que t'es caddie, donc forcément, c'est un peu plus facile. Mais c'est à ce niveau-là, non, c'était top.
Qui a une question? Vas-y, oui. Ramucho.
Je voulais savoir, une version plus générale, d'après toi, en tant que caddie, est-ce qu'il est envisageable actuellement de gagner, quelle que soit la valeur du joueur, sans un grand caddie?
Moi, on est souvent pas. Alors,
moi, je t'aide. C'est oui.
On est souvent un grand partagé oui. Sur le débat et voire pas du tout d'accord.
Voilà. C'est un giga oui. Pardon, je ne suis pas Andrea Ginola, mais je réponds pour lui. C'est un giga oui. Voilà.
Moi, je pense que beaucoup de joueurs sont persuadés que s'ils gagnent, c'est entièrement dû à eux et seulement à eux. Je pense que peu importe la part que le caddie a joué, je pense qu'il y a un moment donné où il a son rôle à jouer. Je pense qu'aucun joueur n'est suffisamment fort mentalement,
c'est sûr,
pour jouer toute une semaine tout seul, sans caddie sur le sac, à ce niveau-là, et gagner. Je pense que le caddie a cette part-là à jouer qui est vachement importante. Et puis le caddie, c'est aussi une personne qui est avec nous, avec qui on peut discuter, changer les idées sur le parcours, entre les coups, pour vraiment essayer de sortir de cette pression si on est en position de gagner un tournoi. Et ça, c'est super important aussi. Donc, je suis assez partagé, mais je pense que le caddie a grandement sa part, ouais, bien sûr.
Ouais, il y a quand même eu un gros débat, nous déjà, et le monde du golf, sur le caddie de Rory, son ami d'enfance, mm-hmm. Où on a conseillé, quasiment tous les ans, hein, mais pourquoi il garde ce caddie, et que s'il n'arrive pas à performer, c'est parce qu'il a ce caddie. Alors, il a prouvé quand même à maintes reprises, et encore l'année dernière. Et là-dessus, moi, je me suis toujours un peu battu pour dire, mais si le joueur gagne et qu'on estime que c'est son jeu, s'il perd, c'est son jeu aussi. Ou alors, s'il gagne, c'est le joueur et le caddie, puis s'il perd, c'est le joueur et le caddie. Mmh. Donc, moi, je suis pas... Je pense que vous vivez tellement de moments ensemble, que c'est des moments qui sont parfois durs, qui sont parfois intenses. Et le golf, c'est pas le foot, si on doit faire référence. Il y a la balle vit, même s'il y a des similitudes. Moi, je trouve que le rôle du caddie, il est fondamental sur le parcours, mais également en dehors du parcours, parce que ce dont on ne parle pas, c'est le temps que vous passez à aller faire les recos, mmh. Le carnet, de peut-être aussi après comparer les carnets.
Ça,
de
c'est le taf.
C'est toute cette préparation souvent qu'on oublie, qui est pour moi, hein, peut-être que je me trompe, et justement, tu es là elle est méga, méga, méga importante parce que l'œil du caddie qui marche le parcours, qui prend toutes les notes, c'est pour aussi que le joueur, quand il joue, soit dégagé de la plupart des infos parasites qui pourraient arriver. Donc, bon caddie avec bon joueur, j'ai l'impression que c'est le tandem qui fait la différence et c'est l'alchimie qui fait la différence plus que le,
ouais, bien
plus
sûr.
Que le niveau.
C'est pour ça que je...
Moi, j'ai une question, Andrea, par rapport à justement la différence qu'il y a entre... le Tour européen, le DP World Tour maintenant qui s'appelle comme ça, et le PGA Tour. Évidemment, tu dressais un portrait d'un point de vue exigence des parcours et t'en as un tout petit peu parlé de ce côté ambiance. Et on parlait de cette notion à l'instant de relation joueur-caddie, surtout pour un joueur comme Adrien Sadier qui débarquait sur le PGA Tour, le français du DP qui arrive aux États-Unis avec son caddie pote français aussi. Dans quelle mesure c'était différent de se retrouver dans un environnement comme ça différent de t'as pas la même façon de communiquer avec les autres, la culture est très différente, j'enfonce des grosses portes ouvertes, mais d'un point de vue relation joueur-caddie, est-ce que justement là-bas le fait d'être très proche, c'était pas une grande force et quelque chose sur lequel vous deviez vous appuyer au début, ou je dis une grosse bêtise? T'as le droit de dire que je dis une grosse bêtise.
Je pensais la même chose, très franchement, je pensais la même chose. C'est vrai que tu construis quelque chose et tu arrives là-bas où tu reprends tout à zéro. Tu viens du DP World Tour où tu connais tous les parcours d'une saison à l'autre. Tu as toujours 4-5 tournois qui vont changer de parcours, mais tu connais tous les parcours d'une saison à l'autre. Tu arrives dans des villes que tu connais, des endroits que tu connais. Donc tu crées des habitudes. Tout ça disparaît, tu repars à zéro. Tu découvres la culture, les parcours, l'exigence. Et c'est vrai que tu as l'impression de devoir tout réapprendre à nouveau. Et c'est sûr que le joueur ainsi que le caddie font la même chose, même pour des caddies américains qui vont monter du Korn Ferry sur le PGA Tour, pareil. Ils vont devoir apprendre à découvrir, à connaître les parcours. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais c'est vrai que tout le monde peut être amené à se dire que forcément, c'est quelque chose sur lequel tu vas essayer de te reposer et de te dire, j'ai construit quelque chose avec mon caddie pendant 2 ans, on part là-bas un peu à la découverte parce qu'on ne connaît rien, donc c'est quelque chose de nouveau. Et on va se servir ce dont on a construit pendant 2 ans.
T'as tes repères avec ton caddie, ton entourage, ton tes habitudes, quoi.
Pour vraiment dérouler un peu comme on l'a fait sur ces 2 dernières années, parce que tu arrives là-bas quand même en confiance au niveau du jeu, parce que tu t'as enchaîné une très belle saison. Donc forcément, tu veux te servir de ça. Adrien a pris la décision de rester en France et de garder sa famille en France. Beaucoup de joueurs, eux, du DP... s'installe là-bas, donc ça a été sa décision. Donc moi, je me suis dit, je me retrouve à être la seule personne avec lui, proche de lui, qui va être avec lui là-bas. Donc on va. Je pensais que c'est quelque chose sur lequel il allait se reposer énormément. Et à l'arrivée,
C'est quoi son staff? Enfin, agent.
C'est une structure qui le représente, donc anglaise, au niveau de l'agent. En coach, il travaille avec Benoît du Colombier, qui lui est en France et qui ne se déplace pas énormément, surtout aussi loin.
Donc beaucoup de vidéos, de visites, de FaceTime.
Exactement. Mathieu Santerre qui s'occupe de ses stats. Donc c'est des personnes qu'il est amené à voir quand il revient en France. Et c'est sûr que ça aurait pu être un point positif de pouvoir avoir de temps à autre ces personnes-là sur place.
Et toi, tu penses, si tu peux répondre, que le fait qu'il n'engage pas tout le monde, alors là je parle de sa famille, de venir aux États-Unis, c'est plus dans l'esprit, on va voir ce que ça donne et puis on... Et le cas échéant, si ça ne fonctionne pas, j'aurais pas tout misé sur les US. Ouais.
À la différence de Pavon.
Je pense qu'il est, très attaché à sa région et à l'endroit où il vit. Et pour lui, ça représente, je pense, un trop gros changement, bouleversement. Il aime la montagne, il aime le froid, il aime toutes ces choses-là. Donc, pour moi, déménager en Floride ou dans ces endroits-là, comme beaucoup de joueurs le font, je ne le voyais pas le faire. Du moins, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il aurait bien vécu dans le
fond.
Donc
ça, tu le savais dès le
départ.
Oui,
ça, je le savais. Après, je savais que ça allait être compliqué parce que forcément, tu engranges beaucoup de déplacements au niveau temps de vol, au niveau décalage horaire, au niveau fatigue sur le corps. C'est sûr que ça a un impact, mais après, ça reste un choix. Mais c'est vrai que ça peut jouer, clairement, ça peut jouer.
Quand on t'entend, André a envie de parler de ce métier de caddie qui est si particulier. Déjà, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir caddie.
Ça s'est fait un peu comme ça. J'enseignais dans un golf Blue Green
à Saint-Aubin.
C'est ce que j'allais dire, dis donc.
Donc
que Saint-Aubin, pardon, André, c'est la passion.
Le running gag.
Non, c'est mon golf à moi. Oh, ouais, c'est pas un running gag, c'est mon golf. Désolé, pardon, excuse-moi.
Donc j'ai enseigné là-bas pendant 2 ans et je suis très proche. On est amis avec Alexander Lévy depuis un bon bout de temps maintenant. Et à l'époque, son caddie l'avait quitté pour un autre joueur. Donc comme quoi, ça arrive dans les deux sens. Et à ce moment-là, il me demande de venir un peu le dépanner. Pour 2-3 semaines, j'en profite, j'arrivais à terme avec le golf où je travaillais. Et 3 semaines, c'est transformé en une saison. J'y ai pris goût. C'est un univers que je ne connaissais pas du tout. J'y ai pris goût. Je m'y suis vachement plus épanoui que dans l'enseignement. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision à ce moment-là de continuer sur cette lancée.
Justement, tu connais cette, pardonne-moi Simon, que tu connais bien cette relation entre le caddie et le joueur, et on parlait évidemment de cette aventure avec Adrien Sadier, et il y aura pour toi d'autres aventures. Est-ce que il faut être ami avec son joueur ou pas du tout?
Tu vas obligatoirement être amené à développer des rapports amicaux. Après, il faut juste trouver, je pense, le juste milieu. Entre le professionnel et l'amical. C'est pour ça que beaucoup de caddies, une fois que la journée est finie, contrairement à beaucoup de gens, pensent qu'on voyage avec le joueur, qu'on loge avec le joueur, alors qu'on se voit le matin en arrivant au golf, on se quitte en fin de journée et puis on ne se revoit pas jusqu'au lendemain. Donc on a vraiment nos deux vies en dehors des tournois. Donc je pense que c'est important parce qu'on passe déjà... autant de temps avec les joueurs que notre femme. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut un peu de temps loin l'un de l'autre. Ça fait du bien aussi. Donc je pense que c'est bien de savoir dissocier un peu les deux. Mais forcément, tu développes le rapport et les liens que tu as envie. Moi, j'aime bien être proche des joueurs pour qui je travaille. C'est important et je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui est toujours positif, quoi.
Et justement, c'est vrai que parfois, on peut être... un peu surpris, tu sais, après quand le joueur ramasse la balle dans le trou du 18 par le côté assez professionnel avec lequel il serre la louche de son caddie, tu vois. Il y a rarement des effusions, il y a rarement des oh, super journée, merci mon pote. Ça reste quand même très professionnel dans le body language. Alors, même si parfois il y a une vraie complicité, JC a posé la question que j'allais te poser, savoir si tu pensais que c'était plus le modèle Harry Diamond, Rory, savoir les vieux copains d'enfance. Qui fonctionne, ou alors le modèle, je ne sais pas, un JT qui va chercher le Bones McKay, tu vois, qui a été sur le sac de Mickelson pendant des années, en se disant, bon voilà, lui, il sait, il va m'emmener, il connaît la route, il va m'emmener. Tu as déjà un petit peu répondu à ma question, donc je vais la transformer. À quel moment tu t'es dit, tout pote avec Alex que tu étais, eh bien dis donc... je suis bon là, à ça, je peux être un très bon caddie. Est-ce que tu as un souvenir d'un jour où tu lui as, je sais pas, donné un conseil, où tu l'as accompagné sur un tour et où tu t'es dit, là, sans moi, il n'aurait pas fait le même score?
Je pense que tu commences à réaliser quand tu partages des parties avec d'autres caddies et d'autres joueurs qui te font après la remarque en te disant que tu fais du bon boulot. Et c'est vrai que c'est vachement... Parce que de l'entendre de son joueur, c'est une chose, mais quand tu t'es amené à l'entendre d'autres personnes du même milieu, c'est sûr que ça fait quelque chose. Et je pense que c'est à ce moment-là où tu réalises un peu. Après, l'avantage, c'est que Alex est quelqu'un de particulier. Très, très bon joueur, mais... pas facile à caddier.
Un peu sanguin, tu veux dire.
Ouais, un peu sanguin. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, si tu commences avec lui, après, tu peux caddier n'importe qui. Donc au moins, tu es à bonne école. Et je l'ai été. Et c'est sûr que là, par contre, je trouve que c'est très, très dur. Pour ça, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent, d'associer l'amitié et le travail, et là, notamment le cadeillage, où j'ai adoré mon expérience, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait ses limites et que c'est dur parfois de vraiment dissocier le pote du cad. Et certaines fois, tu franchis certaines barrières que tu franchis que si t'es pote avec le mec et pas s'il y a vraiment ce rapport pro où on est là pour bosser, quoi.
Ouais. Bah, moi, je me souviens justement pour cette histoire de rapport pote caddie où il faut pas trop aller là-dedans. D'en avoir beaucoup discuté avec Cyril Miranda et Ben Hébert, qui sont deux hyper bons potes et qui ont été un tandem de joueurs caddie assez génial, mais au bout d'un moment ils se sont rendus compte qu'il valait mieux préserver l'amitié que la relation professionnelle. J'aimerais bien savoir, moi, Andrea, du fait que t'es goûté au très haut niveau, tant sur le DP World que sur le PGA Tour, l'avenir, il est forcément de nouveau sur un sac ou est-ce que ce coup d'arrêt que tu t'es un peu pris dans la tronche, que beaucoup d'autres caddies et beaucoup d'autres joueurs aussi, inversement, se prennent quelque part dans la tronche, te fait dire que, voilà, je pense que j'ai peut-être fait un peu mon temps, j'ai appris plein de trucs, je vais revenir à ce que je sais faire de très bien, l'enseignement ou...
Non, je pense que le plus dur là-dedans, c'est la patience et savoir être patient et d'attendre la bonne opportunité, parce que forcément, il n'y a pas de joueurs qui séparent leur caddie toutes les semaines. Moi, ce dont j'ai le plus de mal à réaliser, c'est que je fais ça depuis 3 ans et demi uniquement, que j'ai déjà eu l'opportunité de gagner un tournoi, que j'ai failli presque remporter Wentworth. Du moins, on a fait notre maximum, on n'était pas loin. Et c'est des expériences qui sont gravées. Mais j'ai du mal à me rendre compte que, contrairement à beaucoup de caddies et beaucoup d'amis à moi qui font ça depuis très longtemps, qui, eux, n'ont pas encore gagné sur le circuit, en tant que caddie, c'est dur de se dire je rentre dans une catégorie différente. Parce que forcément, pour un joueur qui va se séparer de son caddie, le fait de prendre quelqu'un qui a déjà gagné et qui a cette expérience-là du dimanche, comme on le disait tout à l'heure, eh ben, c'est une valeur ajoutée énorme. Et c'est vrai que sachant que je fais ça depuis pas longtemps, c'est quelque chose que petit à petit je prends conscience et que je réalise. Et forcément, oui, c'est de savoir être patient, pas forcément sauter sur la première offre et la première opportunité qui se présente. Et je pense que ça, c'est...
Tu en as eu déjà ?
Oui. Ouais, j'en ai eu. Et c'est pour ça que c'est important de prendre la bonne décision et de se réengager sur quelque chose qui donne envie, quoi.
Et donc, ce qui va faire la différence dans ton choix de partir avec un joueur ou pas, c'est avant tout, bon, son statut peut-être, mais avant tout sa personnalité, qu'il faut qu'il matche avec la tienne, j'imagine. Est-ce que c'est ça qui fait la diff?
Ça joue un petit peu. Après, en prenant l'exemple d'Adrien, on a deux personnalités complètement différentes. Et ça, je le savais dès le début. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai pris en compte. Pour moi, c'est un plus, forcément. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler que pour des Français. Maintenant, j'aimerais éventuellement pouvoir travailler pour un joueur étranger aussi. Et c'est quelque chose qui est important, parce que c'est vrai qu'en tant que caddie français, c'est important de savoir dissocier cette image, parce que la plupart du temps, un caddie français va bosser pour un joueur français. Et c'est un peu écrit que ça doit se passer comme ça. J'ai la chance de pouvoir parler couramment anglais et j'aimerais pouvoir m'en servir maintenant, quoi.
Et moi, Andrea, j'ai une question. Moi, t'as déjà répondu à la question. La première, c'était si t'avais des contacts pour le futur, mais voilà. Moi, je voulais savoir ce que ça, par rapport à cette expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté. Tu as aussi un petit peu répondu, mais qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que ça te ferait réfléchir autrement, avoir une approche différente en tant que caddie maintenant sur le prochain joueur que tu vas caddier?
Ouais, l'approche, elle évolue constamment. Moi, comme je l'ai dit, je suis passionné de football. Le golf, ça a toujours été une passion, mais secondaire. Et ça passera toujours après le football. Donc, c'est vrai que j'ai cet avantage-là de pouvoir me dissocier énormément lorsque on a été sur le PGA Tour. On a été amené à faire des parties de reconnaissance ou des tours avec des gros joueurs et où ça ne m'atteint pas forcément. Parce que j'ai pas ce regard envers des joueurs de golf, comme je pourrais si je fais un programme avec Gareth Bale, par exemple.
Ouais, c'est des gens lambda.
Donc, c'est sûr que moi, je m'en sers parce qu'il y a ce détachement qui est créé où ça me permet d'en faire abstraction et de vraiment être pleinement concentré sur ce que je fais, quoi. Donc,
Andrea, est-ce que ça veut dire quelque part que tu pourrais faire autre chose de ta vie, que tu t'accroches pas forcément à ce métier de caddie? Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre ou pas du tout?
Moi, j'aimerais bien pouvoir continuer un petit peu. C'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, l'expérience aux États-Unis s'est arrêtée assez rapidement. Et pour moi, ce serait assez exceptionnel de pouvoir m'engager avec quelqu'un d'autre et puis de pouvoir y retourner une deuxième fois, ça serait incroyable. Et je pense que c'est un bel objectif.
Alors moi, j'ai une question, c'est un circuit dont on ne parle pas, on parle du DP, on parle du PGA Tour. Si tu avais une opportunité d'aller cadayer sur le Live, ça c'est ma première question. J'aimerais que d'ailleurs tu donnes ton regard et ton avis, mais aussi peut-être l'avis des joueurs, l'avis de, je vais pas dire Adrien, mais des joueurs français. Victor y est cette année, et c'est quelque chose que tu peux regarder.
C'est envisageable. Après, comme les joueurs, comme pour beaucoup de joueurs, pour un caddie, l'aspect financier est quand même pas négligeable. Donc c'est quelque chose forcément que tu peux être amené à prendre en compte. La vie sur le Live est complètement différente aussi. Il y a moins de tournois, ce qui fait aussi que tu passes plus de temps à la maison. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, certes, je l'envisagerai, bien sûr que je l'envisagerai, ça c'est sûr. Après, pour les joueurs, je pense qu'on est rendu à un stade où la proposition financière fait la décision, au final. Et c'est pas basé sur le projet, sur les bases GolfX. Et si la proposition joint les termes ou les envies financières du joueur, il y va et c'est comme ça. Et je pense que beaucoup de joueurs qui montent du DP ont eu des propositions avant d'aller sur le PGA Tour cette année. Chaque joueur savait à peu près combien il aurait voulu. Et si la proposition ne matchait pas à ses attentes, il s'engageait sur le PGA Tour.
Comment ça se passe, la rémunération d'un caddie? Je ne sais pas du tout. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas forcément de contrat.
Non, il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement avec le joueur. Tout caddie a des termes un peu différents. On a un salaire fixe par semaine qui nous sert également à payer nos frais. Donc tout ce qui est avion, hôtel, restaurant, etc. Et ensuite, on a un pourcentage sur les gains du joueur en tournoi sur chaque semaine. Ensuite, pas mal de caddies ont des accords différents en ce qui concerne les vols qui sont hors Europe, donc qui sont plus onéreux, plus coûteux, où il y a beaucoup de caddies qui ont les joueurs qui prennent une partie de ces frais-là en charge.
Et Andrea, on a beaucoup parlé avec des joueurs français qui débutaient et parfois la galère que ça peut être un petit peu à l'image du tennis pour justement avoir des prize money suffisants pour pouvoir parcourir le monde et faire des tournois. Pour un caddie, est-ce que même toi, aujourd'hui ou au début de cette aventure du PGA Tour, il y a toujours cette pression de l'argent?
Pression de l'argent, non, pas forcément, parce qu'au final, on perd jamais d'argent à se déplacer sur un tournoi, même loin. Au contraire, forcément, si tu fais pas le cut, tu gagneras forcément moins d'argent, mais t'es jamais perdant. Donc c'est un peu ce côté-là qui est intéressant. Et pourquoi je me posais souvent la question au début de voir autant de caddies assez âgés sur le DP bosser, certains qui boitent, certains qui ont des trucs aux genoux, les straps, les cils, là où tu t'es dit ils doivent en baver. Mais le problème, c'est que c'est comme si tu étais un peu addict au jeu, c'est-à-dire que chaque semaine tu commences ta semaine en te disant peut-être que cette semaine c'est nous qui allons gagner. Et ça, c'est un truc où chaque semaine, chaque lundi, quand tu arrives sur un nouveau site, un nouveau tournoi, c'est quelque chose qui te galvanise, où tu te dis peut-être cette semaine c'est ma semaine. Et ça, tu le retrouves pas vraiment dans d'autres métiers et boulots en dehors de ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est très galvanisant.
On a partagé une heure avec Andrea Ginola. On a encore quelques petites questions à te poser, et notamment avec notre célèbre Clubhouse.
Le Practice RMC Clubhouse.
avec Simon Dutin, évidemment.
Eh ben oui, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Andrea, réponse courte, question courte, réponse courte. J'y sais à
ça dépend des questions.
J'y sais à pour coutume de faire promettre de dire la vérité, rien que la vérité. T'es ok avec ça?
Oui, oui, bien sûr.
Oui, oui. Bah, ça t'engage à rien de toute façon. On pourra pas vérifier. le meilleur score de ta vie.
Moins 4.
C'était où?
C'était à l'université. C'était il y a longtemps.
Bon.
Aux États-Unis, ouais. C'était à une époque universitaire.
Ta distance au drive?
2,75.
Ton club préféré?
Faire 7.
Ton club détesté?
Sandwich.
J'aurais cru que c'était Arsenal, moi. Mais ton parcours...
Après hier, c'est dur. Dur de dire ça.
Ah là là, qui dis-tu? Ton parcours préféré?
À KDI ou à jouer?
Alors celui que... Ah, bah, bonne question.
À KDI, je dirais que c'est Scottsdale que j'ai eu l'occasion de faire là récemment, de par tout, le parcours, l'ambiance.
L'ambiance, donc, ouais.
Ouais, je partirai là-dessus, ouais.
Celui, bah, le parcours préféré sur lequel t'as joué, tant qu'on y est?
Sur lequel j'ai joué?
Ouais.
Saint-Aubin.
Tu me l'enlèves de la bouche.
Le National.
Le National. Mmh. Le parcours que tu rêves de faire?
J'ai jamais été en... J'ai eu la chance d'aller en Australie, j'ai jamais été en Nouvelle-Zélande. J'ai vu beaucoup de très très beaux parcours en Nouvelle-Zélande. Dont un qui s'appelle Cape Kidnappers.
Exactement.
Kidnappers. C'est exceptionnel. Ça a l'air incroyable. Donc je vais dire ça.
Tu parles de celui qui a des langues,
les falaises là, qui a l'air incroyable.
C'est exceptionnel.
À vérifier, c'est une des premières fois qu'on a ni Augusta ni Saugras. Hein,
c'est vachement bien.
Bravo. Les réponses. Bravo.
Merci.
Pascal Grisot avait donné le même parcours.
Ah oui, ouais. C'est très possible. Ouais. T'as raison.
Super.
Ton idole au golf?
Adam Scott.
Le joueur que tu rêves de cadayer?
Tommy Fleetwood.
Avec l'accent en plus. Du coup, le joueur qui, même avec le saladier, arrive et tu dis même pas en rêve.
Bon, non.
Ça n'existe pas?
Non.
Non, et ben voilà. Ton plus gros craquage sur un parcours?
Pro ou perso?
Perso, ouais, en tant que joueur.
Perso, ouais. Mon club que je déteste, c'est le sandwich. Donc, sandwich dans un lac.
Ouais.
Après un chip gratté. Mais bon, ça ne faut pas le faire, hein, mais voilà, ouais.
Oh, je crois que tout le monde peut.
Mais vous parlez, hein, là-dessus.
On a plein de choses à se dire entre Tottenham et.
Plein de points communs tous les deux.
Et les clubs à.
Et celui-là,
en fait. On en a jeté un, mais il y en a combien dans le lac?
Le meilleur conseil que tu aies donné de ta vie sur un parcours?
Je dirais en Italie, lors de la victoire au 17, où un par 3, on était avec Martin Couvra sur le départ, et il y avait un gros sujet de discussion au niveau du vent. On hésitait entre deux clubs. Je donne mon avis à Adrien, je donne ma décision, sauf que derrière j'entends Olivier qui donne une autre direction de vent à Martin, et je prends la décision de rester sur ce que j'ai dit, donc on reste sur le club, et au final ouais, il l'a mis à 5 mètres à hauteur, donc pari gagnant, hein.
Mais d'avoir Mucho s'en souvient.
Ah oui, il a le coup gagnant pour l'Open.
Ouais.
L'Italian Open 2025. Dernière question, le plus beau coup de ta vie de joueur, hein.
J'ai eu l'occasion de taper un coup au 7 à Grand Montana, un par 4 qu'on peut atteindre en 1. C'était pendant le Pro-Am, je cadayais Adrien, et sur le départ, il me propose pour 100 €, si j'arrive à la mettre en 1 sur le green, donc c'est un par 4 atteignable en 1 avec un coup de bois 3. Sauf que le monde s'était accumulé, il y avait Antoine Rosner avec tous ses amateurs qui étaient au départ aussi, tous nos amateurs, et j'ai tapé un coup de bois 3 que j'ai mis à 4 mètres du drapeau. J'ai gagné 100 € et j'ai tapé l'un des plus beaux coups de ma vie parce que à froid.
Sous les applaudissements.
Sous les applaudissements et à froid, ce qui est quand même pas évident.
T'as rentré les gueules?
J'ai pas peuté, j'ai ramassé.
Ah bon, ouais.
Je préférais pas faire 3 mètres.
Merci infiniment, Andrea, d'avoir été avec nous dans le Practice
Merci
RMC.
Beaucoup.
Juste en deux mots, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026?
Eh bien, écoute, autant de réussite qu'en 2025.
Bon, dès que tu as retrouvé un joueur, dès que tu pars sur une nouvelle aventure, tu viens nous en parler?
Avec plaisir.
Canon. Allez, tu reviens nous voir quand
Merci
tu veux.
Beaucoup,
Merci moi. Beaucoup.
Merci
André tout
Merci.
Zola.
Merci.
Dans le Practice RMC, les amis, on se retrouve le lundi 9 mars pour débriefer l'Arnold Palmer Invitational et nous projeter aussi sur le Players. Hein. On parlait de TPC Sawgrass, ça arrive à grands pas. D'ici là, les amis, bon golf à tous. Je vous embrasse. Salut.
Le Practice RMC.